voici le journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin, c'est notamment l'adoption, il y a quelques heures maintenant, par les députés de la déchéance de nationalité. L'article 2 de la révision constitutionnelle a obtenu une courte majorité. Nous verrons cela dans un instant, entre autres avec Benoît Bouscarel. Pas de grands panneaux publicitaires dans les petites villes de France. Le gouvernement renonce ainsi à cette réforme très contestée par les citoyens et par les associations de défense de l'environnement. Dossier signé Willy Moreau. Enfin, Donald Trump et Bernie Sanders sont les stars des primaires du New Hampshire. Ce matin, on y revient à la fin de cette édition avec Frédéric Carbone. L'optimisme de Manuel Valls, le Premier ministre veut toujours croire que la révision constitutionnelle sera bien validée par une majorité confortable, dit-il, d'élus. Après les paroles, les Français attendent des actes, affirme le chef du gouvernement, satisfait de la tournure des événements à l'Assemblée nationale. Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Olivier.
Dans la soirée, les députés, plus nombreux que la veille d'ailleurs, ont en effet adopté l'article 2 de ce projet de loi, article qui concerne, je le rappelle, donc la déchéance de nationalité, article pour le moins controversé, voté par une majorité courte et disparate.
162 voix pour, 148 contre, 22 abstentions, la majorité qui s'est dégagée sur la déchéance de nationalité est effectivement bien plus courte, avec 14 voix d'avance, que celle qui a adopté lundi le principe de constitutionnalisation de l'état d'urgence. Et ce vote, si on regarde dans le détail ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, est très exactement à l'image des divisions qui traversent à peu près tous les groupes parlementaires depuis le mois de novembre. Il montre surtout que la contestation monte peu à peu chez les députés qui, pour beaucoup, n'ont pas apprécié les pressions exercées ces derniers jours par le Premier ministre, faisant état d'une menace terroriste encore plus importante qu'avant le 13 novembre, un argument pour la droite, et appelant au respect des engagements solennels de François Hollande, un argument pour la gauche. Au final, 92 députés socialistes ont voté contre l'article 2 hier soir. Ça dépasse l'aile gauche du PS. Chez les Républicains, ça a été du 50-50, exactement 32 voix pour et 30 contre. La soufflante de Nicolas Sarkozy hier sur François Fillon et ses troupes n'a donc pas eu d'effet. Dans le groupe UDI, il y a eu un vote contre, chez les écologistes, un pour, François de Rugy, qui marque sans doute là un point à la veille du remaniement. FN et Front de Gauche, eux, ont voté contre.
Alors la suite du parcours législatif de ce texte, l'étape du Sénat, avant a priori la réunion donc du Congrès à Versailles. Peut-on imaginer, Benoît Bouscarel, que cette réforme n'aille finalement pas à son terme?
Oui, bien sûr. C'est la grande crainte d'ailleurs du gouvernement. Premier danger pour l'exécutif, pas plus tard que cet après-midi, à l'occasion du vote solennel sur l'ensemble du projet de loi. Malgré la confiance affichée de Manuel Valls, personne ce matin ne peut être certain que ça passera. Et puis ensuite, le parcours législatif est évidemment très long. Dans 4 semaines, le Sénat de droite s'emparera du texte. On sait déjà qu'il le réécrira, comme l'a dit son président, le filloniste Gérard Larcher. Vous savez par ailleurs que dans le cadre d'une procédure constituante, il ne peut y avoir d'accord en mode de compromis entre les deux chambres par le biais d'une commission mixte paritaire. Il doit y avoir un vote conforme, sinon rien. La navette parlementaire peut donc théoriquement s'éterniser. Et d'éternité, vous le savez, hein, surtout dans cette matinale scientifique, c'est long, surtout vers la fin. Alors les 3/5, on verra plus tard.
Merci beaucoup Benoît Bouscarel. On vous retrouve à 8h15 sur France Culture pour votre billet politique. Des délais beaucoup trop longs également au Conseil des Prud'hommes. Plus de 200 salariés ont décidé de saisir la justice pour attaquer sur ce point l'État français. Ils seront défendus par des membres du syndicat des avocats de France qui plaideront leur cause cet après-midi devant le tribunal de grande instance de Paris. Ces délais beaucoup trop longs avant d'obtenir une éventuelle réparation découragent, on le sait, souvent beaucoup de salariés, comme le souligne Maître Maude Beckers qui coordonne cette action collective.
Nous demandons à l'État de respecter l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit que toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Si nous sommes sur une procédure juste au Conseil de Prud'homme, on peut attendre 3-4 ans devant certains conseils de Prud'homme. Et si nous allons en appel, ça peut atteindre jusqu'à 6 années. Donc nous, quand on reçoit des personnes au cabinet qui ont des dossiers qui sont déjà difficiles et qu'on leur annonce qu'ils sont sur un Conseil de Prud'homme à Nanterre ou à Bobigny où ils risquent d'avoir 3-4 années de procédure sans compter la procédure d'appel, il y a un grand nombre de salariés qui décident de ne pas saisir les Prud'hommes. Et lorsqu'ils sont encore en poste, c'est pire, là ils décident totalement de ne pas revendiquer tant qu'ils ne sont pas sortis de l'entreprise que le risque est trop grand. Donc on est en train de nous dire que le code du travail aujourd'hui est extrêmement dangereux, que le code du travail fait peur aux employeurs. En fait, la réalité est tout autre, c'est qu'il y a un code du travail qui n'est pas appliqué dans les entreprises parce que les gens n'osent plus revendiquer au sein des entreprises.
Voilà, Maude Beckers qui est membre du syndicat des avocats de France, elle était au micro de Laurent Kramer. C'est un revers pour le ministre de l'économie. Emmanuel Macron doit finalement renoncer à cette idée de grands panneaux publicitaires, les fameux 4x3 dans les petites villes françaises. française, très contestée par les citoyens, mais aussi par la plupart des associations de défense de l'environnement. Le décret qui prévoyait d'élargir leur implantation vient d'être abandonné. Ce matin, les associations ne veulent pas en rester là. Elles ont l'intention de remettre au ministre une pétition signée par plus de 50 000 personnes. Si le gouvernement recule, le combat n'est en effet pas terminé, Willy Moreau.
Satisfait et même surpris de la révision du décret Macron sur les panneaux publicitaires. Thomas Bourgenot s'est longtemps battu contre ça. Il est membre permanent de l'association Résistance à l'agression publicitaire.
La mobilisation a apporté ses fruits. Pour nous, c'est une énorme victoire. C'est très rare, en tout cas dans l'histoire de nos mouvements, d'avoir autant de poids dans un gouvernement. Effectivement, ça fait plaisir.
À l'approche de l'Euro 2016, le décret prévoyait un assouplissement des règles d'implantation de ces panneaux. Installation dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, plus de souplesse pour les dispositifs lumineux. Tout ça, c'est donc en principe terminé. Mais reste un point que Pierre-Jean Delahousse ne veut pas laisser passer. C'est le président de l'association Paysages de France.
Il reste ce fameux article 1 qui prévoit une dérogation pour les stades dans le cadre de l'euro.
Une dérogation qui prévoit la mise en place de panneaux gigantesques sur les stades, comme c'est déjà possible dans les aéroports ou les gares. Problème, cet article a déjà été voté par l'Assemblée nationale, il est donc déjà en vigueur. Ce matin, les associations restent mobilisées pour demander une révision de la loi. Pierre-Jean Delahousse.
Ça va pas, on ne peut pas accepter des dérogations de ce type-là qui risquent ensuite d'en produire d'autres parce que chacun aurait une bonne raison de dire « moi aussi, il me faut des panneaux chez moi, etc. » Forcément, par définition, puisque l'euro c'est une manifestation temporaire, que cette dérogation soit temporaire et qu'on ne nous raconte pas des sornettes en nous disant oui, c'est pour l'euro et puis finalement il n'y a pas de date limite, donc dans 10 ans, dans 20 ans, les panneaux seront toujours là, il y en aura encore plus.
La pétition anti-pub a déjà rassemblé 50 000 signataires. Les associations appellent Emmanuel Macron à suivre l'avis de ses citoyens en allant plus loin dans la limitation des panneaux.
Ce matin, comme hier, rien ne va plus à la bourse de Tokyo. L'indice Nikkei recule de près de 4%, un signe de plus de la fébrilité actuelle sur les marchés mondiaux. Déprimé, on le sait, par la situation du secteur bancaire, mais aussi par les craintes globales sur l'économie mondiale. À Paris, le CAC 40 a lui aussi terminé hier soir à la baisse et la bourse française est désormais au plus bas du jamais vu, semble-t-il, depuis bientôt 2 ans. De quoi nourrir les inquiétudes des petits épargnants, comme en témoigne ce reportage de Maureen Smigmar, dans une salle de marché qu'il aurait consacrée.
Est-ce que la situation nous inquiète? C'est ça là? Non, mais vous êtes un homme de marché.
Dans cette salle de marché, on répond aux questions des petits investisseurs dans une ambiance plutôt apaisée, loin de la chute vertigineuse de certaines actions boursières ce mois-ci. Frédéric Rosier est conseiller en investissement.
C'est pas forcément plus d'appels, mais c'est la teneur des appels qui a changé. On est plus aujourd'hui dans l'explication et surtout d'éviter d'avoir ces mouvements intempestifs qui est de vendre au moment où les marchés capitulent et sont au plus bas.
Des marchés qui continuent d'inquiéter les investisseurs. En cause, l'enchaînement de mauvaises nouvelles, par exemple le ralentissement de l'économie chinoise et américaine, des taux d'intérêt négatifs ou encore la chute des actions de certaines banques. Mais pas de quoi s'inquiéter selon Sébastien Corchia, directeur des gestions actions chez Mesca Asset Management.
On peut hiérarchiser les points de difficulté, mais aucun à ce stade ne justifie une baisse continue sur les marchés d'actions. On a connu dans les 15 dernières années boursières des mois de mars qui ont souvent corrigé tant les excès à la hausse que les excès à la baisse. Et là, c'en est clairement un.
Sébastien Corchia conseille aux petits épargnants de faire le dos rond encore quelques jours, le temps que la situation s'arrange.
Baptisé Clean Power, le programme de Barack Obama pour lutter contre le réchauffement climatique vient d'être bloqué par la Cour suprême des États-Unis. La Cour valide ainsi les récriminations formulées par quelques 27 États américains qui contestent notamment les limitations des émissions de gaz à effet de serre produites par les centrales thermiques qui fonctionnent au charbon. Ce plan est considéré par la Maison-Blanche comme la pièce maîtresse des États-Unis pour atteindre les fameux objectifs définis au mois de décembre à l'issue de la COP21 organisée à Paris. Reste que cette information pour l'instant ne fait pas la une des médias américains qui se focalisent tous ce matin sur les résultats des primaires dans le petit état du New Hampshire. Et cette fois-ci, Frédéric Carbone, eh bien, les sondages d'avant-scrutin ont vu juste, Trump l'emporte chez les Républicains et Sanders obtient une victoire sans appel dans le camp des démocrates.
C'est la nuit des candidats anti-système et pour Donald Trump comme pour Bernie Sanders, le résultat ne pouvait pas être plus favorable. Le milliardaire républicain obtient le double des voix de son suivant le plus immédiat et il se retrouve face à une opposition dispersée, sans alternative réelle qui se dégage. Marco Rubio ne confirme pas son résultat de l'Iowa et le profil modéré de John Kasich n'est pas dans l'air du temps républicain. Donald Trump peut donc arriver sur scène en famille, au son du Révolution des Beatles et célébrer sa première victoire politique. Il dit avoir beaucoup appris en une semaine. Au même moment, ce n'est pas en musique mais avec des mots que Bernie Sanders célèbre sa révolution. Devant ses partisans qui dansent, il prononce un long discours de président, il parle d'un message fort envoyé à Wall Street et il affirme qu'il faut avoir le courage de bousculer le statu quo. Ça s'est destiné directement à Hillary Clinton. La grande favorite des démocrates sait désormais que la course d'obstacles des primaires sera longue. Le New Hampshire était pour elle au mieux un mauvais moment à passer, au pire, le début d'une spirale périlleuse.
Frédéric Carbone, notre envoyé spécial à Manchester, dans le New Hampshire. Ankara ne veut toujours pas ouvrir sa frontière, pas question d'accueillir sur son sol les dizaines de milliers de réfugiés syriens qui fuient en ce moment les combats dans la région d'Alep. Du coup, les ONG interviennent côté syrien, comme nous le confirme sur place Géraldine Allot.
Ici, plus personne ne se risque à pronostiquer une ouverture prochaine de la frontière. Deux policiers en faction devant le poste frontière de Bab al-Salam répétaient la même chose. On ne sait pas quand la frontière ouvrira, disait le premier. On ne sait même pas si elle va ouvrir, rajoutait le second. Les ONG turques qui viennent en aide aux réfugiés syriens n'en disent pas tellement plus. Le Croissant Bleu International, basé à Kilis, tout près de la frontière, plaide même en faveur d'un maintien de ces réfugiés à l'intérieur de la Syrie. Son coordonnateur, Mehmet Akdemir.
Notre plan, c'est d'assister les réfugiés syriens à l'intérieur de la Syrie. On ne compte pas les accueillir ici parce que Kilis a déjà un nombre énorme de réfugiés syriens. Ils ont besoin d'un toit, de tentes, d'affaires chaudes, de nourriture. On ne sait pas combien de temps ils vont rester là-bas, donc c'est ça dont ils ont besoin.
Kilis n'a pas vraiment envie de voir débarquer 30 000 nouveaux réfugiés. Il faut dire qu'avant le début de la guerre en Syrie, la ville comptait 100 000 habitants, auxquels se sont ajoutés 134 000 Syriens en exil en à peine 5 ans, ce qui pose de gros problèmes de logement et d'emploi, ce qui explique sans doute aussi pourquoi les autorités turques hésitent à créer un nouvel appel d'air.
Géraldine Allot avec les moyens techniques de Raymond Alboui. On notera que les Nations Unies demandent officiellement à la Turquie d'ouvrir sa frontière. Le HCR se tourne aussi vers la communauté internationale pour réclamer plus de soutien et de moyens en faveur des autorités kurdes, turques pardon, qui accueillent déjà 2,5 millions de réfugiés syriens sur leur sol.
7h12 sur France Culture, c'est l'heure du portrait du jour consacré ce matin à Yann Lecoin.
Considéré comme l'un des inventeurs de l'apprentissage profond, une méthode pour entraîner les machines au lieu de les programmer, ce chercheur qui travaille pour Facebook a prononcé le 4 février dernier une leçon inaugurale au Collège de France. Bonjour Mathieu Corr.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris-Cy, spécialiste du traitement des images. Vous participez à notre matinale des scientifiques. C'est vous qui, ce matin, nous brossez le portrait de cet homme qui fait d'une certaine manière le pari que les machines seront un jour plus intelligentes que nous.
Eh oui, Olivier Denré, je vais vous parler ce matin de Yann Lecoin, ce professeur, ce chercheur en vision et intelligence artificielle, professeur à la prestigieuse université de New York, la NYU, et qui vient tout juste de prendre la chaire annuelle informatique et sciences numériques du Collège de France. Sa leçon inaugurale, déjà mise en ligne ce matin, « L'apprentissage profond, une révolution en intelligence artificielle », a eu lieu jeudi dernier dans une salle bondée, une ambiance surchauffée, plein de jeunes s'entassant partout, assis, debout, jusque dans les coursives. Mais qui est donc ce Lecoin pour déchaîner ainsi les foules ? C'est un petit gars du pays en fait. Il est né juste à côté de Paris en 1960, puis il a été formé et bien formé à l'université Pierre et Marie Curie où il a obtenu son doctorat en informatique en 1987 avant de filer aux États-Unis pour y faire l'essentiel de sa carrière. Il poursuit là-bas un programme de recherche démarré pendant sa thèse autour des réseaux de neurones artificiels pour la vision. Convaincu et passionné, il va tenir sa ligne même lorsque ses approches seront délaissées voire décriées pendant plus d'une décennie. Mais en 2012, enfin, c'est le triomphe. Tout le monde adopte ces méthodes qui permettent aux ordinateurs de reconnaître, vous savez quoi ? Une chaise, un visage, une montagne et même un brocoli. Bref, n'importe quel type d'objet dans une image et tout cela automatiquement. Alors, quand fin 2013, Mark Zuckerberg lui-même, monsieur Facebook, vient le chercher en pleine conférence mondiale pour monter un labo d'IA, Olivier, l'IA, c'est Intelligence artificielle. Il accepte, bien sûr. Yann Lequin l'a bien compris, tous les radars sont maintenant ouverts pour que l'IA explose. Il a tenté d'en expliquer les principes pendant 1h30 de leçon inaugurale. Et j'aimerais dire ici combien cette session fut intense, à l'image de l'homme, brouillonne et bouillonnante, brouillonne car toutes les lignes scientifiques établissent s'affolent, et bouillonnante car tout le monde en veut de l'IA à l'heure du big data, et la meilleure façon de traiter ces données gigantesques, c'est bien de demander aux machines de le faire pour nous, et tant qu'à faire, intelligemment. Cette chaire donnée à Yann Lequin, c'est clairement un signe fort, envoyé par le collège qui montre combien cette prestigieuse institution prend toute la mesure de ce bouleversement scientifique. À nous tous maintenant, chercheurs, industriels et politiques, de transformer l'essai pour ne pas regarder le train des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, filez sans nous, car sinon, Guillaume, Olivier, je le crains, je vous le dis, votre prochaine voiture, c'est entre l'Apple et la Google Car qu'il vous faudra la choisir.
Merci beaucoup Mathieu Corr pour ce portrait du jour bouillonnant, je vais reprendre ce mot, que l'on peut retrouver donc sur notre site franceculture.fr. Quelques mots du temps de ce mercredi 10 février 2016. De la neige sur l'est de la France et sur les Pyrénées, il pleuvra sur le sud-ouest et 6 départements situés sur la façade atlantique sont toujours ce matin en vigilance orange à cause de la tempête sur le centre du pays. Le ciel sera plus calme, il y aura de belles éclaircies. Quant aux températures ce matin, elles sont comprises entre 0 et 6 degrés, température un peu plus de saison, Guillaume.